Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire, qui est en fin de compte, la base de cette étude-là, c'était comment présenter l'Évangile. Puis, comme je l'ai dit au début, c'est pas une question comment je dois m'habiller, puis comment je dois me peigner, puis me laver. Non. On parle de versets de la Bible. Des versets qui pourraient être utiles quand vous évangélisez. Si on n'en parle jamais de ces versets-là, mais on n'aurait peut-être pas grand-chose à dire, mais en regardant, en approfondissant ces messages, ces versets-là, là, tout ce que Dieu nous donne comme sujet, ça nous donne de quoi à parler. Ça fait 4 réunions en ligne qu'on parle des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, puis se sont toutes accomplies exactement comme ça avait été annoncé. N'est-ce pas formidable? Le verset clé que je trouvais pour cette étude-là, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » C'est ça que ça dit dans Jean. « Ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez. » Dieu voulait que vous croyiez. Fait qu'il a tout écrit, ce que l'on avait besoin de savoir pour croire, pour être sauvé. Dieu veut qu'on serve de sa parole. C'est la parole qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole pénètre les cœurs, puis elle change les faux raisonnements, renverse les forteresses. La parole, c'est la vérité qui renverse les mensonges. Les gens du monde sont tous pognés dans toutes sortes de menteries. La seule affaire qui pourra tout casser ça, c'est la semence de la parole de Dieu qui va pénétrer le cœur. Puis on a besoin à quelque part de prendre 1, 2, 3, 4 versets. C'est ça qu'à la fin, je vais vous donner les feuilles, mais qu'on ait fini, pour que vous puissiez, si vous allez repuiser tous les versets que vous voulez pour pouvoir vous en servir quand c'est le temps. Aujourd'hui, on va voir les révélations à propos du Messie, les révélations, les prophéties qui ont été faites annonçant ses œuvres après sa résurrection. On a vu un paquet de prophéties qui annonçaient la première venue. Jésus l'a vécu, sa vie, puis il est mort, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est ressuscité, puis il y a d'autres prophéties qui ont été dites, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, pour parler de tout ce que le Messie va faire après sa résurrection. Il n'a jamais fini de travailler, le Seigneur. Même si on dit qu'il est rentré dans le repos, là, il est encore en action, là, présentement. Il est encore en action, en esprit, par le Saint-Esprit, puis il agit dans le monde, présentement, puis il est venu nous chercher. Mais il agit parce que c'est écrit qu'il était pour agir. Il y a des versets là-dessus. La Bible continue à prédire une continuité, la suite de la venue du Messie sur terre. Le Messie est venu, il est mort, mais il est aussi ressuscité, puis il vit maintenant au siècle des siècles. Il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Il n'y a plus personne qui va le tuer pour l'arrêter. Il est éternel. Puis il continue d'agir. Puis en plus, il est le Tout-Puissant. C'est écrit, il le dit. « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Jésus, c'est le Tout-Puissant. Oui. Puis on va regarder des passages dans ce sens-là aujourd'hui. Si toutes les prophéties annoncées autour de sa première venue se sont accomplies, qu'en est-il des prophéties concernant son intervention présente sur la terre et sur son retour? Si toutes les premières se sont accomplies, qu'est-ce qui va arriver avec les autres, vous pensez? Ils vont toutes s'accomplir exactement comme ça a été annoncé. On n'a pas à craindre là-dessus. Dieu, il n'est pas menteur. Puis Dieu, il est fidèle. Puis Dieu dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne passeront point que tout cela n'arrive. Tout va arriver exactement comme Dieu l'a annoncé. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé plusieurs prophéties concernant l'œuvre du Messie ressuscité. Puis en plus, Dieu le Père nous a révélé ce qui est écrit dans les Épîtres, puis dans l'Apocalypse, fait que toute la Bible en entier parle de choses que Jésus va faire après sa résurrection. Fait que dans la Bible, il y avait tous les secrets, des mystères cachés, mais ça s'est révélé au complet quand Jésus est venu. Tout a été mis par écrit. Puis tout ce qu'on va puiser, c'est dans ce qui est écrit. De même, on insulte pas faire fausse route dans notre compréhension. On va voir la première idée là-dedans, dans le prophète Malachie, qui est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Il a prophétisé aussi, lui aussi, sur la venue du Messie. Il a parlé de sa résurrection puis de son travail de sanctification qu'il opérera en ceux qui lui appartiennent pendant le temps de la grâce. C'est fort pareil parce que sans ce travail-là que l'Esprit de Dieu, que Jésus fait en nous pour nous sanctifier, tout ce qu'on ferait pour Dieu serait vain et inutile. Fallait que le Seigneur fasse quelque chose de grand en nous pour qu'on puisse être agréable à Dieu, puis que nos offrandes à Dieu puissent être agréées. Dans cela, c'est dit dans Malachie, cette idée-là, au chapitre 3, le verset 2. Ça nous dit dans la prophétie, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? » Puis il est venu, v'là 2000 ans. « Qui restera debout quand il paraîtra? » Parce que on le sait qu'un jour, tout le monde va se mettre à genoux devant lui. Puis là, il nous raconte dans la prophétie ce que Jésus a continué à faire après qu'il soit ressuscité. Il dit, « Car il sera comme le feu du fondeur. » Comme la potasse des foulons, il s'assiera, il fondra, il purifiera l'argent. Là, on voit le travail de purification que le Messie fait dans ceux qui lui appartiennent. On le voit dans l'autre verset. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. C'est ça que la Bible parle, que les chrétiens vivent le chemin de la sanctification produite par le Saint-Esprit. Il est en train de nous rendre purs. Il nous a purifiés quand on est venu à Jésus, on était pardonnés, purifiés, on repartait à zéro, puis là après dans notre marche, on en fait encore. On en fait encore des choses qui déplaisent à Dieu, mais il travaille sur nous pour nous rendre purs. Pour enlever de nos vies ce qui n'est pas de Dieu. Le travail de, comme la fonderie qui fait fondre l'or pour l'épurer, il fasse ce travail-là en chacun de nous. Puis c'est nécessaire que ça soit fait. Puis là, ils se présenteront à l'Éternel avec des offrandes justes. Parce qu'on a été purifiés, on va se présenter à l'Éternel avec des offrandes justes. Cette sanctification-là, faite par le Messie, était nécessaire afin que nos offrandes soient agréées. Parce que juste l'autre verset dans Malachie chapitre 3, verset 4, ça dit, « Alors, après qu'elle est passée dans la purification, là, ça dit, « Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. » Parce qu'on a passé dans cette purification-là, ça permet qu'à chaque fois qu'on glorifie le Seigneur, chaque fois qu'on fait des choses pour le Seigneur agrée ce qu'on a fait. Parce qu'on a passé par son feu pour nous transformer. Puis ça, c'est le travail qu'il fait depuis qu'on s'est converti. Mais c'est le travail qu'il fait depuis les premiers chrétiens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que là, la purification s'est faite pendant 2000 ans que Dieu purifie du monde sur la terre pour les rendre agréables aux yeux de Dieu, pour que nos offrandes soient agréées. Voyez-vous, sans le travail de Jésus, notre vie n'aura pas pu lui plaire. Maintenant, notre vie, nos offrandes, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, lui plaît à cause de l'œuvre que Jésus continue à faire en nous. Un autre point que la Bible a nous dit à propos du Messie, depuis sa résurrection, le Messie, par le Saint-Esprit, travaille à sauver puis à rassembler les élus. Dans Jean 12, 32, Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, » il fallait qu'il meure en étant élevé, cloué à la croix, il est mort. Là, il dit, « En étant élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » On voit que Une fois que Jésus a été élevé, puis ça, il a annoncé ça d'avance, puis c'est ce qui arrive, depuis que Jésus a été élevé, qui est mort sur la croix, le Saint-Esprit travaille pour rassembler des gens, les amener au salut, puis de les rassembler pour faire partie de ceux qui vont vivre éternellement. On voit là-dedans que Jésus prophétisait qu'après sa mort, que lui y assemblerait les gens. Ça dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme dans un autre verset, il va dire, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Fait que Jésus travaille dans le Saint-Esprit pour sauver les hommes puis les rassembler. Ça fait partie du travail nécessaire pour qu'on soit là. C'est lui qui est venu nous chercher. Il est venu nous convaincre, il est venu nous parler, puis il continue d'agir pour assez. Il est en train de travailler dans les membres de nos familles. Il est en train de travailler dans nos amis parce qu'on prie pour ça, puis le Saint-Esprit, Jésus et le Saint-Esprit travaillent pour les attirer. S'ils ne rentrent pas, c'est pas parce que Dieu n'aura pas essayé, c'est parce que ces gens-là sont endurcis, puis ont fermé leurs yeux, puis sont tenus captifs par le prince des ténèbres. Mais Jésus, pas grâce à vos prières, puis grâce au travail du Seigneur, il va en avoir beaucoup qui vont être sauvés. Continuons à prier, puis le Saint-Esprit continue d'agir pour les sauver. Une autre prophétie dans Zacharie, il a annoncé que à la fin des temps, parce que là, tout le long de l'histoire, le Saint-Esprit travaille à sauver les âmes, à ce que les âmes allaient à Jésus pour être pardonnées, mais ça nous dit qu'à la fin des temps, ah oui, une autre affaire, je voulais vous dire avant. Je suis sûr que je ne parle pas de tous les détails, de tous les versets, de tous les sujets. Là, il y en aura trop. Mais je me concentre sur les grandes lignes seulement. Que le Saint-Esprit fait un œuvre, puis qu'à la fin des temps, il y a une multitude de Juifs qui vont se tourner vers leur Messie en repentance, en se rappelant les souffrances puis la mort de Yeshua. Si on voit ça dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 12-10, mais c'est la même idée qui est amenée dans les 144 000 dans l'Apocalypse. Dans Zacharie 12-10, ça dit, « Alors je répandrai sur la maison de David, les... » Puis ça, c'est dit, « Je répandrai, c'est Dieu qui va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. » Donc, c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Fait que Jésus est en train de nous parler, qu'il annonçait dans l'Ancien Testament une prophétie que Jésus a travaillé pour sauver les Juifs, pour les amener à lui, celui qui a été crucifié. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Puis on le sait que le fils unique de Dieu, c'est Yeshua. Nous autres, on est des fils adoptifs. Lui, c'est le seul que Dieu a engendré. Il n'en a pas engendré deux ni trois. Il n'a engendré rien qu'un sur la terre, lui-même. Puis il l'a mis à travers Marie, puis c'est son fils unique. Puis il dit, ils vont le pleurer comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Puis Paul, dans ses enseignements, il dit que Jésus, c'est le premier-né de toute la création. Pas parce qu'il est venu au monde le premier. Non, l'idée premier-né veut dire l'héritier. Celui qui devait tout hériter, parce que dans les descendants juifs, c'est le premier-né qui avait tout l'héritage. Jésus est le premier-né de la création, celui qui doit obtenir l'héritage. Mais, comme on le voit aussi dans les prophéties, il veut partager son héritage avec ses frères. C'est nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Par l'œuvre du Messie, il y aura aussi une conversion mondiale. Je ne te dis pas que c'est toute la planète qui va se convertir, mais des gens autour de toute la planète se tourneront vers lui, vers le Messie. Ça dit dans Apocalypse 7-9, là on voit une prophétie écrite dans l'Apocalypse, Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. On voit que les prophéties parlent encore de Jésus qui est présent. Puis, ils sont revêtus de robes blanches, puis des palmes dans leurs mains. Mais une foule innombrable qu'on ne peut calculer qui vont se convertir au Seigneur. On a le droit de croire qu'il va y avoir une multitude de Canadiens, en particulier une multitude de Québécois, puis pour avoir une multitude de Beauharnois, moi je disais des Beauharniens, mais c'est Beauharnois. On est des Beauharniens qui vivent à Beauharnois. Mais Dieu est venu nous chercher. Gloire à Dieu. Fait qu'il va en avoir aussi à Beauharnois. La preuve, il a déjà commencé, on est là. Amen. Gloire à Dieu. Puis il va en avoir d'autres. Puis c'est le Saint-Esprit qui est en train de rassembler. Ça fait partie de la continuité de l'œuvre du Christ après sa mort. Il continue d'agir. Les prophéties de Daniel, y annoncent le retour du Messie. Longtemps qu'il y a eu une première venue, les prophéties annoncent une deuxième venue. Il va apparaître une seconde fois. Il apparaîtra pas trois fois, quatre fois. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Puis ça dit qu'il va revenir sur une nuée, ça sur un nuage, puis on voit aussi son couronnement. Mais cette prophétie-là a été faite dans l'Ancien Testament, dans le prophète Daniel, au chapitre 7, le verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, on parle d'un nuage, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » On voit qu'il y avait des prophéties dans l'Ancien qui annonçaient le fils de l'homme qui revient sur une nuée. C'est fort. Fait que quand Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, on va le voir l'autre verset après, il n'a pas inventé des nouvelles affaires, c'était déjà écrit dans les prophéties de l'Ancien. Puis on voit aussi le couronnement de cet homme-là qui va être sur une nuée. Il dit, s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, puis son règne ne sera jamais détruit. Wow! Là, on voit là-dedans, ça parlait d'avance du couronnement du Fils de Dieu qui descend sur une nuée puis qui reçoit le gouvernement de la planète puis ça va durer éternellement. Une autre prophétie qui avait rapport à cette même idée-là de l'apôtre Paul, c'est sûr c'est donné par Dieu, mais c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, il annonçait que le Messie Yeshua reviendra et qu'il ressuscitera tous ceux qui lui appartiennent. On fait partie de ceux qui vont ressusciter, puis ils vont revenir avec lui au moment où ils vont revenir. Fait que tous les morts qui sont sauvés vont ressusciter avec le Messie, puis il viendra chercher ceux qui sont encore vivants sur la terre, en descendant sur un nuage, la même idée que qu'est-ce qu'on a vu dans Daniel. 1 Thessaloniciens 4, 16, ça nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça, là, d'un autre verset, ça dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils vont pogner un down. Tout le long, ils disent, ils ont ri des chrétiens, ils ont persécuté les chrétiens, puis ils n'ajustaient pas leur vie en se repentant devant Dieu, puis lui rendre gloire. Ils continuaient à se moquer, puis à rejeter l'idée. Mais quand ils vont voir le Messie revenir sur un nuage tel que les chrétiens l'ont annoncé, ils vont se lamenter. Il dit, le Seigneur va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui appartiennent à Jésus vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, on va être tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. C'est exactement la même chose que Daniel disait, que le Fils de l'homme descend ses nuées et vient chercher le contrôle, la royauté. Là, il va venir sur une nuée, puis on va le rencontrer dans les airs, puis ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Wow! Ça, c'est le jour le plus attendu. Oui, il y avait du monde qui attendait la première venue. Il y avait des Juifs qui attendaient la première venue du Messie. Il y avait une certaine quantité. Mais aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes qui attendent le retour de Jésus. Puis, même que ça arrive, ça va réjouir leur cœur. Ça va réjouir leur cœur. C'est des centaines de millions qui sont en train de prier puis hâter le jour de l'avènement du Seigneur, comme la Bible nous le dit. Ça va être un jour, un des plus grands jours glorieux pour notre Seigneur. Puis, on va en profiter un petit peu. Gloire à Dieu. Mais qu'on se retrouve là, ça va être waouh. Fini les problèmes. Il n'y aura plus de persécution, de honte, de gêne, de crainte, de maladie, de souffrance et de tout ce qu'on vit présentement de négatif. Les prophéties de Malachie parlent aussi, comme je suis en train de vous dire là, la guérison qu'apportera le second retour du Messie envers ses élus. On le voit aussi dans l'Ancien Testament, ce qu'il va faire, ce qu'il va nous faire dans Malachie 4:2. Il nous dit, mais pour vous, chacun de nous, là, puis tous ceux qui écoutent sur Internet, puis même ceux qui n'ont pas écouté, qui l'ont lu dans la Bible, c'est pour eux aussi, ceux qui appartiennent le Seigneur, à ceux qui appartiennent au Seigneur, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Quand les veaux, ils sortent de l'étable, là, ça saute sur tous les bords, ça les pattes revolent, puis ils sautent. On va être comme ça, mais que Jésus vient nous chercher. On va être, il dit, la guérison va être sous ses ailes, puis on va sauter de joie, puis de bonheur, puis d'allégresse, puis on va louer le Seigneur, puis tout le kit. Ça va être extraordinaire. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça va être au jour du retour du Seigneur. Il dit qu'il va donner à ceux qui lui donnent le pouvoir, il va nous donner le pouvoir de juger, puis on va régner avec le Christ, puis il dit, on va pas être les nations qu'une verge de fer, la même chose que Jésus l'a reçu de son Père. Parce que le règne, il va être un règne de justice, de droiture, la vie sera plus comme ça l'est présentement. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maux pour nous. Mais en plus, ce qu'il va nous donner, comme qu'il dit dans ce verset-là, de fouler aux pieds les méchants, parce qu'il va rester des gens qui, peu d'hommes, mais ils vont se repeupler, puis Jésus va rétablir son contrôle sur la planète pendant les 1000 ans. On va voir 2-3 versets dans ce sens-là tantôt. Dans cette période-là, quand Jésus va revenir, dans le ciel, il va y avoir une victoire, une grosse victoire dans le ciel qui va fermer pour un temps l'accès au diable sur la terre. Le diable, il est là, puis il fait encore ce qu'il veut, mais c'est tout prévu par Dieu, c'était prophétisé par Dieu que pendant que le règne du Seigneur va être sur la terre, lui ne sera pas là en train de sévir les nations. Ça va être un règne de paix. Plus de tentation vers le diable, ses démons, ses maladies, puis ses souffrances. Le monde qui vont vivre sur la terre vont vivre un autre contexte qu'on n'a jamais connu. Un contexte de bien-être, parce que la gloire de l'Éternel va remplir la terre, puis le diable sera plus là. Ça va être toute une autre ambiance sur la planète. Ça dit dans cette victoire-là, pour enlever la liberté du diable puis de le renfermer, on voit ça comme dans les prophéties d'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1. Ça dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, puis une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, puis le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin, puis regardez bien pourquoi, que le diable est enfermé, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Fait que pendant les 1000 ans, il pourra plus séduire personne, pourra plus tenter, se mettre des doutes, mettre des mauvaises idées, avoir des accès dans les gens pour les lier, puis les enchaîner, puis les leur faire du mal, les courber, puis les tenir captifs. Il pourra plus. Il sera plus là. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il n'est pas encore 100% éliminé. Il est gardé dans une prison pendant les 1000 ans que ça dit. Mais à la fin, il va être relâché pour un but. Ça ne durera pas longtemps, mais juste pour... Dieu a un plan dans tout cela. Le prophète Malachie il a prophétisé que lors de son retour, il va avoir un jugement sur les pécheurs non repentants. Puis ce jugement-là va être fait par le Messie. Parce que Jésus, il est pas venu pour juger au départ, il est venu pour sauver. Mais c'est lui, Jésus, qui a été établi chef et juge. Il va revenir, puis là, il va juger les nations à son retour. Il vient nous chercher, mais les autres, là, je voudrais pas être là. Manquons pas l'enlèvement. Malachie 3:5. Jésus qui parle, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs, c'est ceux qui jouent avec la magie et la sorcellerie. Dans l'ancienne alliance, c'est ce mot-là, ça a rapport magicien, magie, sorcellerie, sciences occultes, tout ce qui a rapport au monde des esprits, invoquer les morts, tout ça, c'est à défendu, puis vient contre pour juger ceux qui jouent avec ça, et les adultères. Puis les adultères, au niveau sexuel, là, Jésus l'a expliqué, ça va bien plus que juste coucher qu'une femme mariée. Rien que le fait de penser à une femme pour la convoiter, là, t'es déjà en adultère. Contre ceux qui jurent faussement, les menteurs, c'est encore un des commandements de Dieu. Tous ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, ça c'est les boss de compagnie qui sous-payent leurs employés, qui retiennent leur paye. C'est ça que ça dit dans ce texte-là. Ceux qui retiennent le salaire de ceux qui travaillent, autrement dit. De ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et en parlant de ceux qui craignent pas son nom, il dit « ceux qui me craignent pas », dit l'Éternel des armées. Le jugement va être par Jésus, puis le jugement va être sans miséricorde, quand Jésus va revenir. Dans 2 Thessaloniciens 1:8, ça dit que lorsque Jésus va revenir, ça dit « il vient pour punir ». Ceux qui connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, puis ils vont avoir pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle. Ils ont pas, quand Jésus revient pour l'enlèvement, qui dit ça dans 2 Thessaloniciens, les autres qui ne servent pas Dieu, puis ils connaissent pas, mais ils ne servent pas, ils vont être dans une ruine éternelle. Ils n'ont pas de deuxième chance de se convertir. C'est une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Fait que, pour ça qu'on mette de la pression et qu'on essaye de convaincre les autres, il faut qu'ils se repentent. Il faut qu'ils acceptent Jésus, eux aussi. Ce chemin-là, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Parce que s'ils refusent de répondre à l'Évangile, ils vont faire partie de ceux qui vont se faire blaster, mais que Jésus revienne. C'est des prophéties, ça. Puis comme je l'ai dit au départ, Toutes les prophéties qui parlent au propos de la naissance de Jésus sont toutes accomplies. Ces prophéties-là vont toutes s'accomplir aussi. Faut pas penser qu'il y a d'autres moyens de passer à côté, d'autres chemins, comme des prédicateurs américains disent, qu'il y a d'autres chemins pour être sauvé. C'est faux. Nul ne vient au Père que par moi, que Jésus dit. Tu peux pas passer par ailleurs. Tu passes par ailleurs, tu es un voleur ou un brigand. Le Messie Yeshua aura un règne de 1000 ans sur la terre. C'est un règne de paix avec ses élus. Ça, on voit ça dans Apocalypse 20, verset 6. Ça nous dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » L'enlèvement, c'est la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Si on parle de la seconde mort, c'est l'étang de feu. Fait que si t'es enlevé avec le Seigneur, là, t'as rien à craindre. T'es à la bonne place. Tu peux pas sortir de là. Le diable peut pas venir te rechercher. T'es sauvé, officiel, deux ailes. Tu peux même mettre un S sur ça. Hein. Il dit, la seconde mort a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Puis que le diable sera pas là. Comme je vous disais aussi tantôt, à la fin des 1000 ans, le diable va être relâché, puis il va séduire encore les humains, pas les sauvés. Parce que les sauvés sont en train de régner sur les humains qui se sont remultipliés sur la terre. Puis là, ils ont vécu, je ne sais pas combien de temps, là, 800, 900, 1000 ans, il y en a qui vont vivre vieux, puis sans que le diable les affecte. Mais en dernier du 1000 ans, il dit qu'il va être relâché, le diable, pour faire comme un genre de test. Puis ça nous dit dans la Bible qu'il va séduire encore les nations. Puis ils vont se retourner vers Jérusalem pour faire la guerre au Messie, à Yeshua. Dans Apocalypse 20, le verset 7, il dit, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. » Pendant 1000 ans, il n'a pas pu séduire personne, puis à la fin, il va les séduire. Tu vois comment est-ce que c'est la nature humaine? Tant que les suggestions mensongères nous viennent dans la tête, ça prend pas grand-chose pour les entraîner le monde. Là, il va séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Puis leur nombre est comme le sable de la mer. Il va y avoir une multitude de monde. Puis là, ils disent, ils montèrent sur la surface de la terre, puis l'investir le camp des saints, puis la ville bien-aimée. Là, ils vont rentrer comme dans Jérusalem pour aller faire la guerre là. Mais un feu descendu du ciel, puis les dévora. Toute cette immense armée-là qui va se rassembler à ce moment-là, à la fin des 1000 ans, il va être détruite par le feu qui tombe du ciel, puis c'est fini. F-F-I-N-N-I. Il va avoir une victoire définitive sur le diable et son armée à ce moment-là. Parce que dans le verset suivant, au verset 10, Apocalypse 20-10, ça dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Puis ils vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On les reverra plus jamais. Le diable, l'antéchrist puis le faux prophète sont déjà là parce qu'eux autres ils ont été jetés là au début du 1000 ans. Puis là, à la fin du 1000 ans, le diable va être jeté là où ce qui est le faux prophète puis l'antéchrist. Ça faisait déjà 1000 ans que ces deux-là étaient dans ces souffrances-là. Des fois, on dit, parce que les témoins de Jéhovah ou d'autres religions disent qu'une fois que tu es jeté dans le lac de feu, que tu es détruit, anéanti instantanément, c'est faux. 1000 ans après, sont encore là. Puis ils sont encore dans les souffrances éternelles. Puis un jour, si Dieu veut, on va revenir avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Comme il y a plusieurs versets qui parlent comment est-ce que c'est cet état-là du lac de feu. Puis c'est pas une place qu'on va aller. Puis si on veut pas y aller, il faut s'arranger pour pas y aller. pour ça qu'il faut faire des efforts, que ceux qu'on connaît ne se ramassent pas là aussi. Ensuite, la parole de Dieu prédit que ce sera la fin de la vie terrestre quand ça va arriver. Il y aura une résurrection de toutes les morts non sauvées, parce que les sauvés ont été ressuscités à la première résurrection, à l'enlèvement. Après ça, ça va être toutes les morts non sauvées. Ils vont ressusciter pour être jugés et condamnés. Dans Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, puis celui qui était assis dessus, c'était Yeshua. La terre et le ciel, ce qu'on voit, là, l'univers, la création physique, va disparaître, va s'enfuir devant sa face. Il n'y aura plus de place pour cette création-là. Dieu va scraper ça comme un vieux manteau, va tout enlever ça, il va jeter ça. Ça dit, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il y a un anéantissement de cette création d'aujourd'hui. Puis là, il dit, je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, il y a un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Puis les morts furent jugés selon leurs œuvres. Puis on le sait que les œuvres de quelqu'un qui n'est pas pardonné, les œuvres sont toutes pécheurs. Tout le monde tout le monde a fait des péchés. Il n'y a point de juste, pas même un seul. L'ensemble de ces morts-là vont être jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Puis ça nous dit au verset 15, « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, où sont le diable, le faux prophète, puis l'antéchrist. Puis des tourments éternels vont entendre ceux qui sont morts, non pardonnés. » On ne veut pas que ceux qu'on connaît soient là. Qu'on n'aime pas quelqu'un au point de dire j'aimerais ça qu'il soit jeté là. Si quelqu'un un jour pense de même, chasser cette pensée-là, c'est le diable qui fait ça. Pensée meurtrière. Dieu veut sauver tous les hommes. Je te dis pas qu'ils vont l'être parce que ça dépend de l'homme. Il faut qu'il réponde à l'appel de Dieu. Mais Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne prend pas de plaisir à jeter le monde dans les temps de feu. C'est pas Dieu, en fin de compte, qui les jette là. C'est à cause de leur péché qu'ils ne peuvent pas entrer dans le seul autre lieu qui existe. C'est le ciel. Ils ne peuvent pas rentrer à cause de leur péché dans le ciel. Il faut qu'ils soient pardonnés pour pouvoir rentrer. Puis Dieu accomplit un pardon universel pour la planète au complet. Tout le monde se convertirait, tout le monde pourra rentrer dans le ciel. Dieu veut sauver tout le monde. S'ils ne rentrent pas, c'est parce qu'ils ont refusé la seule bouée de sauvetage qui a été envoyée, c'était Jésus. Sa mort sur la croix, c'était le seul sacrifice qui pouvait sauver quelqu'un. Fait que ceux qui suivent des religions autres, peu importe la religion, même la religion évangélique ne sauve pas. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Faut que tu ailles à Jésus direct, puis que tu crois que c'est son sang qui te pardonne. Puis si tu crois ça, puis tu le prends dans ta vie, puis tu t'engages, il va commencer l'œuvre de sanctification dans ta vie pour que tes offrandes soient agréables à Dieu, comme qu'on a vu tantôt. J'achève. Ensuite, la Bible nous prédit la création d'un nouveau ciel puis d'une nouvelle terre. Celle-là va disparaître, mais il va créer un nouveau système, un système éternel, un système parfait. Puis, elle va être complètement différente d'avec la vie d'ici. Puis, il va y avoir une ville extraordinaire qui va descendre d'auprès de Dieu, puis qui va descendre sur cette nouvelle terre-là. Ça s'appelle la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Puis c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Aujourd'hui, on le sait, la Bible le dit, il n'y a pas de maison qu'on peut bâtir où ce que Dieu peut vraiment habiter. Les cieux des cieux sont pas assez grands pour contenir Dieu, encore moins une maison que je vais faire. C'est ça que la Bible elle nous dit. Tandis que Dieu, lui, va en faire une habitation, ce que lui va habiter, Jésus va l'habiter, puis que nous, on va l'habiter, ça va être l'habitation de Dieu avec les hommes. C'est appelé la Nouvelle Jérusalem, puis le Seigneur y règnera éternellement. Dans Apocalypse 21, à partir du verset 1, ça dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car, il le répète une deuxième fois, le premier ciel et la première terre avaient disparu, puis la mer n'était plus. Le système qu'on connaît aujourd'hui, ça va disparaître. Il n'y aura pas de mer dans la nouvelle planète que Dieu va faire, la nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Puis j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle, ça c'est l'habitation, voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, puis Dieu lui-même sera avec eux. » Wow! « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil. » Ça, c'est des personnes qui meurent. « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Est-ce que ça remplit d'espoir? Certaines personnes sont habituées de souffrir. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quand Dieu annonce de quoi, ça va arriver. Faites-vous-en pas, ça va arriver. Il n'est pas menteur. » Puis je finis avec un dernier verset. « Les prophéties nous enseignent que le Messie invite tous ceux qui ont soif. Ceux qui iront à Yeshua, Jésus, hériteront, puis ils deviendront fils de Dieu. » Dans Apocalypse 21:6, il me dit, c'est fait, c'est Jésus qui parle, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Y a-tu des gens qui ont soif, c'est... Mais on peut s'abreuver gratuitement. Celui qui vaincra, irritera ces choses, je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se dire, je suis un fils de Dieu, parce que je marche dans la victoire, à cause de la victoire que Jésus m'a donnée? C'est grâce à Jésus qu'on est sauvé, c'est pas grâce à nos performances, ou à cause qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on se pense bien correct, pas pantoute, on est tous des pécheurs, mais il nous a pardonnés. Il a fait de nous ses enfants, puis il nous a changé de camp. C'est déjà commencé spirituellement parlant, mais un jour, on va avoir les deux pieds dedans. Puis là, il n'y a plus personne qui va nous enlever notre joie. Mais en attendant, il nous dit, veille à ce que personne ne prenne ta couronne. Elle est promise, mais persévère. Il y a des conditions. Lâche pas le salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Yeshua, Jésus, le Messie de Nazareth, bien sûr, parce qu'il y en a des faux Jésus, qui c'est des autres Jésus ou autres esprits, autres doctrines. Mais nous, on veut prendre le seul qui est dans la Bible. On veut celui qui est écrit là, puis recevoir cet esprit-là en marchant dans la parole de Dieu. Amen. On va prier pour encore, l'appel est pour tout le monde, si une personne a soif et elle veut boire aux eaux de la vie éternelle, c'est d'aller à Jésus, je vous donne l'occasion d'accepter Jésus dans votre vie, pour vous repentir devant lui, demander pardon, puis demander d'entrer pour que vous soyez pardonné, puis il va le faire, parce que Dieu, il n'est pas menteur. Et dit, quiconque confesse son nom, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fait que là, je vais faire une prière, répéter cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés, maintenant marchez avec le Seigneur. Lisez la Bible. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis, un jour, on se retrouvera dans la cité céleste, dans la présence de Dieu. Amen. Amen.